VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, du lundi 2 octobre 2017. D'abord, le sommaire. Fusillade de Las Vegas aux États-Unis, au moins 58 morts et 515 blessés. Donald Trump dénonce le mal absolu. Au Cameroun, les forces de sécurité ont bloqué les routes dans le sud-ouest anglophone. Au Kenya, des manifestants de l'opposition dispersés à coups de gaz lacrymogène à Nairobi et Kisumu. Rentrée scolaire au Tchad.
Les cours ont repris effectivement.
Vous retrouverez notre correspondant André Kodmajingar en N'Djamena. La communauté internationale appelle Madrid à renouer le dialogue avec la Catalogne. Retrouvez Nicolas Pinault pour votre page d'espoir et Jacques Aristide pour l'actualité économique juste après le journal. Ici, aux États-Unis, fusillade la plus meurtrière depuis des décennies hier soir à Las Vegas. Un tireur a ouvert le feu sur une foule à un concert, tuant au moins 58 personnes et blessant plus de 500 spectateurs. Les détails avec Anastasie Toudiech.
Le président Trump a réagi ce matin à cette dernière fusillade meurtrière.
It was an act of pure...
C'était un acte de pure barbarie. Le FBI et le ministère de l'Intérieur travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour aider les enquêteurs et feront régulièrement des mises à jour sur la progression de l'enquête.
Des milliers de spectateurs s'étaient retrouvés pour un festival de musique country. Le tireur avait pris place au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, surplombant le public. C'est depuis la fenêtre de la chambre, où plusieurs armes ont été retrouvées, qu'il a perpétré le carnage. Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles sont inconnus à ce stade. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque, mais les autorités américaines affirment qu'à ce stade, il n'y a aucune preuve d'un lien quelconque avec ce groupe. Stephen Paddock, 64 ans, a agi seul. Selon la police, il s'est donné la mort avant que les forces de l'ordre puissent l'arrêter. Il était résident de Mesquite, une ville d'environ 18 000 habitants, non loin de Las Vegas.
Pour un témoignage, Idriss Fall a joint Catherine Sevlo, une boulangère française à Las Vegas.
Ça a commencé par beaucoup de messages de nos amis en France qui ont voulu savoir si on allait bien. Donc on s'est demandé bien pourquoi, puisque ça s'est passé courant de la nuit. Quand on a regardé les nouvelles, eh bien oui, on est atterré par ce qui s'est passé. Ce matin, en allant délivrer sur le strip le Cosmopolitan, on sent une atmosphère très calme. Les gens sont très moroses, ne sourient pas. Il y a la police de partout. La ville est choquée. Las Vegas est une très grande ville. On est quand même une communauté, américains, français, tous les étrangers qui vivent à Las Vegas. Et vraiment, on est choqués. C'est dramatique. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne décide comme ça de jouer au sniper et de tuer et de blesser autant de personnes? C'est incompréhensible. On est en sécurité nulle part. En
fait. Est-ce que ça a eu un effet sur le business aujourd'hui?
Oui, c'est très très calme de partout, sur les routes, sur le strip, c'est très très calme de partout. Là, les gens sont sous le choc.
Catherine Sevlo, une boulangère française à Las Vegas. Au Cameroun, le calme règne sur l'ensemble des deux régions anglophones après les incidents d'hier. Le couvre-feu décrété vendredi soir prend fin ce soir à minuit dans le sud-ouest et le nord-ouest. Entre-temps, la guerre des chiffres est lancée sur le bilan des morts enregistrés hier en zone anglophone. Le point à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Une association camerounaise des droits de l'homme parle d'une trentaine de morts à l'issue des affrontements dans les deux régions anglophones du Cameroun. Le gouvernement n'a pas encore communiqué là-dessus, hormis la déclaration faite à la presse ce lundi par le gouverneur de la région du Nord-Ouest qui a porté le bilan des affrontements d'hier à 6 morts sur l'ensemble des 7 départements de sa région. Ce matin à Bamenda, des tirs de dissuasion ont été entendus. Il s'agissait d'une opération de démantèlement d'une bande armée. La reprise des coups n'a pas été effective. Le Nord-Ouest est calme, a commenté une autorité administrative de la région, joint par VOA. Dans le Sud-Ouest, La ville de Kumba, surchauffée hier, a connu une reprise timide des activités. La tension a baissé dans le quartier de Fiango. Pas de circulation de motos à usage commercial. Le couvre-feu étant encore en vigueur dans le sud-ouest. Un effectif de 3 élèves a seulement été recensé dans un lycée de la ville, nous a confié une enseignante de Kumba, Yaoundé, Emmanuel Jolutap, VOA Afrique.
Le Sénégal et le Mali ont fermé des écoles privées gérées par des groupes proches du prédicateur turc exilé Fethullah Gulen. Cette décision inquiète les parents d'élèves dans les deux pays. En Côte d'Ivoire, des anciens rebelles démobilisés ont réclamé de l'argent à l'État Amman dans l'ouest du pays. D'autres ont voulu occuper la préfecture de Boaké dans le centre. Ils réclament une prime de 18 millions de francs CFA. 16 miliciens ont été tués dans d'intenses combats qui opposent depuis vendredi l'armée congolaise à des milices dans une localité du Nord Kivu à Uvira dans l'est du pays. RDC toujours, le gouvernement a décidé de délivrer désormais une vignette unique pour les visas d'entrée. Plusieurs modèles étaient officiellement en circulation et rendaient difficile l'identification des visas, de vrais visas délivrés par les ambassades de la RDC à l'étranger. Un agent de la Direction générale de migration a salué une mesure salvatrice, mais sa mise en application pourrait prendre plusieurs mois. Le modèle unique de vignette n'est pas encore connu. Il faudra passer des commandes à l'imprimerie et procéder à l'acheminement de la nouvelle vignette. Au Kenya, la police a dispersé au gaz lacrymogène plusieurs centaines de partisans de l'opposition dans le centre de Nairobi et de Kisumu dans l'ouest. Les manifestants avaient érigé des barricades et mis le feu à des pneus. Claire Morin-Gibourg.
Les manifestants protestent contre la commission électorale, accusée de nombreuses irrégularités par la Cour suprême, qui a invalidé la présidentielle. L'opposition a conditionné sa participation à la nouvelle élection du 26 octobre, au remaniement en profondeur de l'IEBC et à l'octroi des contrats sur le matériel électoral à de nouveaux fournisseurs. Le gouvernement a exclu tout remaniement de cette commission électorale qui vient de conclure jeudi dernier un nouvel accord avec une société française au Témorpho. Depuis l'invalidation le 1er septembre de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, la tension est montée d'un cran entre le pouvoir et l'opposition. Dans une lettre commune, 14 ambassadeurs et diplomates appellent à un processus électoral réfléchi avec l'accord de toutes les parties afin d'éviter les débordements violents que le pays a connus après les élections de 2007 où il y a eu plus de 1000 morts.
L'Organisation internationale pour les migrations a affirmé que des gangs de criminels enlèvent et torturent les migrants arrivant au Yémen de la Corne de l'Afrique pour obtenir le versement de rançon. Quelques 6000 migrants tentent d'entrer dans le pays chaque mois d'après l'OIM. Ils viennent souvent de l'Éthiopie ou de Somalie en espérant se rendre dans les pays riches du Golfe pour trouver du travail. Le prix Nobel de médecine attribué à 3 généticiens américains. Leur étude de l'horloge biologique éclaire l'adaptation du corps au cycle du jour et de la nuit, les troubles du sommeil et leurs effets sur la santé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les protagonistes libyens ont abouti à des compromis très importants pour amender un accord sur la transition politique. Cette réforme du pouvoir exécutif doit ouvrir la voie à la formation des instances d'un État actif et capable de diriger le pays. En Libye toujours, le port commercial de Benghazi a rouvert hier après 3 ans d'inactivité. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al Hussein, a demandé aux autorités espagnoles de mener des enquêtes sur les violences en Catalogne à l'occasion du référendum interdit. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Zeid Raad Al Hussein, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a indiqué que les interventions policières doivent être proportionnées. Il a appelé au dialogue politique dans le respect des libertés démocratiques, demandant au gouvernement de Madrid d'accepter la visite d'Annalisa Ciampi, rapporteuse spéciale. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, lui, invite les autorités espagnoles à éviter un nouvel usage de la force. Pour sa part, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a affirmé que le référendum est une attaque contre l'état de droit, justifiant ainsi la fermeté. Le président de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, a quant à lui dénoncé ce qu'il qualifie de violence injustifiée. Les charges policières ont fait 90 blessés selon le gouvernement catalan. Le ministre de l'Intérieur parle de 33 policiers blessés. L'exécutif de la Catalogne a déclaré que le oui l'a emporté à 90% avec un taux de participation de 42,3%.
En Allemagne, environ 10 000 personnes dans le quartier de Berlin vont être évacuées ce soir pour permettre au service de déminage de désamorcer une bombe de 250 kg datant de la Deuxième Guerre mondiale. Le roi Salman d'Arabie Saoudite est attendu en Russie jeudi pour la première visite d'un souverain saoudien dans ce pays. Il répond à une invitation de Vladimir Poutine. Les deux hommes discuteront des relations bilatérales et des moyens de les dynamiser ainsi que des sujets régionaux et internationaux. Les services spéciaux russes sont démantelés dans la région de Moscou, une cellule liée à l'organisation État islamique qui préparait des attentats en Russie. Au moins 11 morts dans un attentat à la bombe à Damas. Les forces irakiennes se sont emparées d'une localité stratégique qui était tenue par le groupe État islamique au sud-est de Hawija, dans le nord de l'Irak. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Pour l'actualité économique, suivez Jacques Aristide.
Le syndicat du chocolat qui réunit des géants comme Nestlé, Mars, Lindt et Ferrero, des PME comme Avalrona et quelques 4000 artisans chocolatiers, s'est réuni à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris pour marquer la journée mondiale du cacao observée hier. Après celle de l'huile de palme, la filière du cacao est bousculée par le réchauffement climatique. Des ONG accusent les pays producteurs de déforestation. Le secteur tente de définir un concept de cacao durable et une norme européenne d'ici à 2018. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao du monde, s'est engagé en 2014 à aboutir à un cacao zéro déforestation. Le spectre de l'hyperinflation fait son retour au Zimbabwe après la vague d'il y a une dizaine d'années. L'effondrement de la monnaie nationale a causé une hausse vertigineuse des prix et contraint le gouvernement à adopter le dollar américain comme monnaie d'échange. Le pays n'arrive toujours pas à juguler le chômage de masse et a émis il y a presque un an des bonnes notes. La Royal Air Maroc, dont la croissance ces dernières années sur le continent a accompagné la stratégie diplomatique du Royaume en Afrique, a célébré avec Fast ses 60 ans ce week-end à Casablanca, en marquant la volonté d'approfondir cet axe de développement. La compagnie aérienne compte à ce jour quelques 3 220 salariés, ainsi qu'une flotte de 58 appareils qui desservent un total de 80 villes à travers 5 continents.
On passe maintenant au sport avec Nicolas Pinot. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Voilà, nous commençons avec le football. On parle de cascade de forfaits pour la Côte d'Ivoire avant d'affronter le Mali.
La Côte d'Ivoire qui devra se passer des services de plusieurs cadres pour affronter le Mali, ce sera vendredi à Bamako lors de la cinquième et avant-dernière journée des qualifications de la zone Afrique pour le Mondial 2018. Le sélectionneur des éléphants, le Belge Marc Wilmots, a annoncé des forfaits sur blessure. Deux joueurs clés qui figuraient initialement sur la liste des 24 joueurs, Gervinho, le capitaine de la sélection, mais aussi Jean-Michel Seri, Seydou Doumbia, Adama Traoré ou encore Wilfried Bony. Ce dernier devait effectuer son retour dans le groupe après une longue absence. Deux pièces maîtresses sont aussi absentes, Wilfried Zaha et Max-Alain Gradel également blessés. À l'issue de la quatrième journée du groupe C, la Côte d'Ivoire est toujours leader avec 7 points, mais le Maroc se rapproche à 6 points, suivi du Gabon 5 points et du Mali 2 points. On rappelle que le premier de chaque groupe est qualifié pour le Mondial.
Et Nico, les 23 joueurs des Lions indomptables du Cameroun sont connus.
Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Brousse, a convoqué 24 joueurs pour la réception de l'Algérie en éliminatoire du Mondial 2018. Cette rencontre est évidemment dépourvue d'enjeux puisque les deux équipes sont éliminées. Les Camerounais qui évolueront sans Kato Joakambi et sans Eric Maxime Choupo-Moting, mais avec Clinton Nidje de retour parmi les Lions indomptables. L'ancien Sochalien Petrus Boumal fête sa première sélection.
Et qui va remplacer le Kenya à l'organisation du CHAN 2018, Nicolas?
Et oui, suite au retrait de l'organisation du CHAN 2018 au Kenya, la CAF avait lancé un appel à candidature. Eh bien, trois pays ont répondu dans les délais. Il s'agit du Maroc, de l'Éthiopie et de la Guinée équatoriale. Le nouveau pays organisateur de cette cinquième édition du CHAN doit être annoncé d'ici la fin de la semaine.
C'était les sports de Nicolas Pinot. Merci Nico.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila-Kiza, pour aborder la seconde partie de cette édition. La contestation anglophone au Cameroun a franchi un nouveau palier avec la proclamation symbolique hier de l'indépendance de l'Ambazonie. D'après les partisans de la sécession, elle regroupe les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Cette option ne fait pas l'unanimité chez les anglophones, même s'ils dénoncent en majorité la marginalisation dont ils se disent victimes. Pour une analyse, Timothée Donangma a joint Manassé Aboyang Endang, enseignant de sciences politiques à l'université de Douala.
La solution pour la majorité des anglophones ne réside pas dans la sécession. Le parti le plus représentatif des anglophones, en l'occurrence le SDS, lui, il est partisan pour le fédéralisme. Donc, il n'envisage pas une perspective de sécession du Cameroun. Et la plupart des leaders politiques, justement, ont embrayé sur cette perspective. Ils souhaiteraient davantage qu'on puisse parler du fédéralisme et non de sécession, parce que cette perspective est manifestement difficile à articuler.
Qu'est-ce que le fédéralisme résoudrait dans la situation actuelle, puisque le Cameroun a déjà connu le fédéralisme?
Naturellement, c'est un débat qui devient comme une sorte de gradualisation de la politique. C'est parce qu'effectivement, les uns et les autres convoquent en fait que la décentralisation qui a été instaurée dans la Constitution de 1996 n'est pas encore opérationnelle, en l'occurrence. Les institutions prévues par cette constitution n'ont pas effectivement été mises en place. C'est pour cela que certains estiment qu'à défaut d'avoir mis en place la décentralisation, il faut certainement envisager la perspective du fédéralisme. Ce qui, parfois, sur le plan juridique, ne résout aucun problème parce qu'il s'agit d'améliorer la gouvernance, il s'agit de rapprocher l'administration des administrés, il s'agit de résoudre les problèmes locaux, les nombreux problèmes qui sont confrontés les Camerounais.
Le président Paul Biya a dénoncé les violences et appelé au dialogue. Alors, dialogue avec qui et sur quoi porterait un tel dialogue?
Un dialogue, je pense qu'il faut identifier les acteurs. Or, jusqu'à présent, la plupart des acteurs qui se sont fait savoir jusque-là étaient des acteurs représentatifs des professions, en l'occurrence les enseignants et les avocats. Or, ce dialogue devrait aller au-delà de ces représentations corporatives pour nécessairement adjoindre les politiques, les leaders d'opinion, la société civile, de manière à constituer un groupe de travail représentatif de l'anglophonie. La plupart des gens qui présentent comme étant des porte-parole des revendications anglophones, sont vite désavoués par la base. Il s'agit d'identifier des interlocuteurs représentatifs des aspirations des anglophones recrutés dans les différentes corporations, la société civile, voire les politiques.
Manassé Aboyang Endang, enseignant de sciences politiques à l'université de Douala.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, les élèves ont repris le chemin de l'école après 3 mois de vacances. Mais cette reprise des cours ne rassure pas le syndicat des enseignants du Tchad, qui exige du gouvernement le paiement des primes des examens et concours, ainsi que les subsides des maîtres communautaires dans un bref délai. Les précisions avec André Kodmajinga.
Les élèves d'un lycée privé conventionné de la capitale entonnent l'hymne national à la levée du tricolore tchadien pour marquer l'effectivité de la rentrée scolaire ce 2 octobre 2017. Du côté des établissements publics, le lycée d'Abénan, l'un des 3 grands lycées de la capitale situé dans la commune du 7e arrondissement municipal, est complètement dans l'eau. Toutefois, Madame le proviseur du dit lycée, Habiba Idriss, rassure que tout est fin prêt pour le démarrage des cours.
Les cours ont repris effectivement, mais ce qui pose problème en ce moment, c'est l'envoi l'engouement des enfants à venir s'inscrire. Parce que Abena est en train de traîner un tard qui a duré longtemps. À cause de l'eau, chaque année, c'est le dernier lycée à commencer ses cours. Cette année, la cour est inondée, c'est vrai, mais on a le passage vers les salles de classe. Cette année, on a essayé de fabriquer des ponts, des fortunes. Les difficultés, il y en a beaucoup. Non seulement l'école n'est pas bien lotie, nous avons un mur manquant. Nous avons une grande porte avec une grosse clé qui est présenté depuis la construction de ce lycée. Mais la suite du mur ne vient pas. Il y a la question de la sécurité, surtout de sécurité des enfants et de nous-mêmes.
À peine démarrée, une menace de grève plane déjà dans ce secteur. Le syndicat des enseignants du Tchad exige du gouvernement le paiement des primes des examens et concours de l'année 2015-2016, les primes des encadrements des enseignants des écoles normales d'instituteurs et les subsides des maîtres communautaires avant la fin du mois d'octobre 2017. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Kazali Mahamat Asil, invite les partenaires à l'éducation nationale à un sens de responsabilité pour ne pas retomber dans la même situation que l'année dernière.
Le gouvernement fera tout son mieux pour que cette année s'achève aussi dans les meilleures conditions. Mais nous souhaitons aussi, en commun accord avec nos partenaires sociaux, à maintenir le dialogue, la communication pour l'intérêt de nos enfants et pour la réussite des enfants tchadiens.
Une invite qui ne rassure pas le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad pour la commune de N'Djamena, Ngartoïde Blaise, menant toujours d'appeler à la cessation des activités pédagogiques si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans un délai requis.
Nous ne pouvons pas vous dire à quand il y aura des perturbations. Les primes, on peut encore peut-être s'attarder là-dessus, mais vous prenez les maîtres communautaires, les subsides. Aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans, ils ne sont pas payés. Donc, si rien n'est fait dans les semaines qui suivent, il y aura effectivement des perturbations.
André Kodnou Madingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Mina Gorib Fakim est depuis 2014 présidente de l'île Maurice dans l'océan Indien. Âgée de 58 ans, elle est aussi une biologiste de renommée mondiale. Après le départ de la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Liberia, elle sera la seule femme présidente parmi les 54 chefs d'État africains. Notre confrère Abdoushakour Abou a eu un entretien exclusif hier à Washington avec Amina Gorib Fakim, présidente de l'île Maurice.
Tout le long de ma carrière, je n'ai jamais voulu convaincre les gens. On convainc les gens par exemple. Alors, comment moi je vais m'investir dans le leadership de mon pays et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je me mets comme objectif, qu'est-ce que je compte réaliser pendant mon mandat, comme dirait l'anglais, lead by example.
Comment est-ce que, en tant que femme, mère de famille, comment est-ce que vous balancez entre la famille et la politique, et la science et puis la politique?
Vous savez, dans la science et la politique, et même comme mère de famille, c'est, je crois qu'il y a une convergence. Tous les trois secteurs que je vous ai cités, on veut avoir des résultats. Et comme scientifique, on est forcé d'avoir des résultats. Et de la politique, moi je pense que c'est la même chose. Le politique qui est là, il doit donner des résultats, surtout dans mon pays. Il faut avoir des résultats pour qu'on arrive à présenter un bilan. Même en tant que mère, mon succès se résume aussi au succès de ma famille et de mes enfants. Donc dans tous les trois secteurs, il y a une convergence. Et après, le peuple, votre famille et la société va vous juger en fonction des résultats que vous apportez.
Alors, quels sont les priorités maintenant politiques pour le pays?
Bon, pour le pays, comme je dis, nous sommes maintenant un pays à revenus moyens, disons, élevés. L'idée, c'est de se dépasser encore une fois, et d'augmenter le gâteau. Comme ça, la part pour tout le monde va être encore plus importante. Et l'idée, c'est d'accélérer avec le produit intérieur brut. Et comme ça, on peut servir le peuple davantage. Donc, plus de sécurité sociale, plus de filets protecteurs, les gens qui sont démunis. On doit se dépasser à tous les niveaux, chaque année, améliorer les conditions de vie de tout le monde. Mais pour ce faire, il faut que l'économie fonctionne encore mieux. Donc, c'est notre responsabilité de mettre en place la structure qu'il faut pour engranger les profits pour les sociétés, mais aussi pour qu'on arrive à donner les moyens à nos jeunes pour s'épanouir. Et voilà. Donc, pour Maurice, on s'est donné l'objectif d'aller plus dans l'économie de la connaissance. Pour créer ça, il faut se donner les moyens, et ça revient avec ma passe en Washington cette semaine, pour regarder comment on peut créer l'écosystème pour que ces jeunes restent et travaillent pour le bien du continent africain.
Et alors, pour les femmes et les filles, quel est le message?
Pour les femmes, pour les jeunes d'ailleurs, hein, ce qu'il faut faire, c'est il faut continuer à rêver, comme moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, et oser. Rêver, oser, passer à l'action.
Amina Gourib Fakim, présidente de l'île Maurice.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Virginia Tech, Orlando, Sandy Hook, Fort Hood, Columbine et maintenant Las Vegas. Les fusillades ne cessent de se multiplier aux États-Unis au cours des 25 dernières années. Celle perpétrée hier soir à Las Vegas est considérée comme étant la plus meurtrière de l'histoire moderne du pays. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le professeur Amadou Koné de Georgetown University.
Je me suis réveillé ce matin, Jacques, et j'ai allumé la radio, c'est la première nouvelle que j'ai entendue. Il faut dire que, comme je suppose tout le monde, j'ai été terriblement secoué par cette nouvelle terrible, bien que ce ne soit pas la première fois qu'une telle chose se passe. On devrait être habitué, si on pouvait être habitué à de telles choses, parce que c'est constant, ça arrive pratiquement tout le temps, mais chaque fois on est encore plus horrifié parce que c'est toujours beaucoup plus grave. Je ne sais pas à quoi penser. C'est une situation terrible, n'est-ce pas, qu'on vit, parce que ça ne semble pas très rationnel, tout cela. Il est difficile d'analyser la chose et de proposer des solutions.
Et cette nouvelle fusillade va nul doute relancer le débat sur le contrôle des armes. Pourquoi, d'après vous, professeur, est-il toujours impossible de contrôler rigoureusement les armes à feu aux États-Unis?
Écoutez, moi, je suis toujours très étonné par les arguments des uns et des autres quand on parle des armes à feu ici aux États-Unis. Il y a ceux qui s'accrochent à la Constitution. Porter une arme ou acheter une arme est un droit constitutionnel et donc ils s'accrochent à cet argument. Et il y a les autres qui essaient de dire, selon eux, pourquoi être libre d'acheter des armes est une chose dangereuse. Je dois avouer que, étant donné mes origines africaines, je me pense du côté de ceux qui pensent que être libre d'acheter des armes et des armes de guerre est une chose extrêmement dangereuse parce que on a des gens qui sont malades, on a des gens qui sont juste en colère et Dieu seul sait que quand on est en colère même, on peut se battre contre un ami, n'est-ce pas? Mais se battre simplement avec les poings, c'est différent que d'avoir une arme. Quand on a une arme et qu'on la sort et on tue, on ne peut plus revenir en arrière. Il me semble, personnellement, qu'il devrait avoir un contrôle beaucoup plus strict des armes. Écoutez, ce monsieur avait 10 fusils, et pas des fusils de chasse, 10 fusils très sophistiqués, fusils de guerre, dans une chambre d'hôtel. Je ne crois pas que ce soit une chose qu'on puisse réellement justifier. Qu'est-ce qu'il fait de 10 fusils? Pourquoi être capable d'acheter 10 fusils de guerre? Pourquoi faire? Il y a toutes sortes de questions. Il y a le terrorisme qui a sa logique parce qu'il obéit à une idéologie, à des objectifs, etc. d'un côté. Et évidemment, si c'est du terrorisme, c'est ce qu'on met dans le cas du terrorisme. On peut réfléchir et dire, bon, il faut trouver des moyens pour le combattre de façon logique aussi. Et puis, il y a ce type de tuerie à l'aveuglette, comme on en a dans les écoles, dans les cinémas, dans les églises, et hier dans les concerts. Mais je crois que, franchement, la raison, c'est cette aptitude à acheter les armes n'importe comment et n'importe quand. Ça, c'est mon opinion à moi.
Professeur Amadou Koné de Georgetown University.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Gisèle Morissin a assuré la mise en onde. Zubair Al-Taïb à la console. Présentation Eric Manilakidza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Agréable soirée chez vous. À bientôt.